La convention ou le bonheur d'appartenir à notre association d'église. Annie et moi, nous en avions rêvé, nous vous l'avons dit, tous à la convention. Alors vous n'êtes pas tous venus, mais vous êtes venus en nombre suffisant pour qu'on puisse vous dire, vous avez exaucé notre vœu, merci. Et je sais même que si les conditions avaient été différentes, plusieurs seraient venus également. On a parfois des bonheurs comme ça, des encouragements, des sources de bénédiction, des secours, mais on en ignore l'existence. Alors on ne peut pas en profiter. C'est sans doute le cas pour beaucoup d'entre nous, s'agissant de notre association d'église, peu connue ou pas connue. Mais faites-en l'expérience une fois, et vous l'avez perçu, vous avez envie de recommencer. C'est le cas de la convention. Et la convention, c'est un premier pas. On y fait connaissance avec des personnes issues des différentes communautés de notre famille d'église. Occasion de découvrir que l'association, c'est bien plus qu'à la convention. Ah, la convention, c'est pour vivre un moment fort. Alors ça, vous l'avez déjà perçu. On en vit aussi quand même entre nous des bons moments forts. Pas besoin d'attendre quand même 2 ans pour la prochaine convention et pour vivre de bons moments entre nous. Mais ce moment-là est exceptionnel. Exceptionnel par le nombre. Encore que 300 personnes pour un peu moins de 60 églises, proportionnellement, ça fait pas grand-chose. Mais c'est énorme pour une petite église comme la nôtre. Et puis chanter à 300, ça a été dit, ça fait pas le même effet qu'à 30. Première rencontre, premier chant, je ne sais plus lequel. Je pense même que je n'ai pas chanté. Mais je vous assure, je l'ai écouté et vraiment, j'ai eu le sentiment ému et bienfaisant que les frères tout autour de moi chantaient ce cantique pour moi, chantaient pour moi un message de Dieu. Par le nombre, par son côté exclusif aussi. Des moments de communion fraternelle, d'exhortation, de chant, de prière, de repos, de détente, de repas, rien d'autre à faire pendant 4 jours. Et tout organisé, tout prêt, c'est plutôt rare. Et puis par l'intensité aussi, notamment par la qualité des interventions. Parce que pour une telle occasion, eh bien, on a choisi les personnes les mieux qualifiées. Et ces personnes ont travaillé leur sujet de façon particulièrement approfondie. Les raisons sont multiples qui ont construit notre rêve. Rêve de vous faire vivre cette entreprise de notre association d'église. Et ces raisons s'expliquent aisément. D'une part, l'expérience de ce que nous y avons personnellement vécu dans l'association, et d'autre part, l'expérience qu'en a fait notre Église elle-même du fait de son appartenance à cette communauté. Bonheur personnel d'abord donc d'appartenir à cette famille pour 2 raisons essentielles. D'abord, ce que nous en avons reçu, nous deux, Annie et moi. Enfin, j'ai le souvenir des visites de Monsieur Dubarry. Alors, Monsieur Dubarry, c'est le fondateur de notre association d'église en 1921. Et j'ai le souvenir de la révérence qui s'exprimait à son encontre dans la famille. Que faisait-il? Il visitait les églises. Et je percevais que c'était un bienfait pour nous. Et puis ensuite, des camps, des cours de formation au moment de notre jeunesse. Et, élément important, point de départ de multiples amitiés dans bon nombre d'églises, Montbéliard, Mulhouse, Nîmes, le Jura suisse, et des amitiés durables encore aujourd'hui. Sauf que de mes amis, il en manque de plus en plus. Et puis les conventions, bien sûr. Une photo m'a fait rappeler celle de 1956 à Cours. 56, hein. J'ai dû y venir plus tôt, selon la déclaration d'un frère de cette église, il y a quelques années, il s'approche de moi, il me dit, je me souviens de toi, tu venais avec ton père, tu portais des culottes courtes et des sandales. Vous laissez quelquefois de curieux souvenirs, hein, des frères. Bonheur aussi d'avoir trouvé dans l'association une occasion de service. L'impératif, la priorité de mon service a toujours été dans l'Église, bien évidemment. Mais la conscience d'avoir tellement reçu que l'impératif devenait pour moi celui de la reconnaissance. C'est ainsi que j'ai accepté l'offre de participer au conseil d'administration de notre association pendant un peu moins de 20 ans, la moitié en secrétaire de séance et l'autre moitié en qualité de trésorier. Et quand j'utilise ici le mot de bonheur, ce mot de bonheur n'est pas usurpé, car jamais service n'a été pour moi plus heureux que celui-là. Jamais. Bonheur aussi d'appartenir à notre association d'église. C'est aussi vrai pour notre église. Si vous saviez ce qu'elle nous a apporté, l'association. On en parlait aussi comme ça dans ma famille, l'association. Eh bien, c'est simple. En quelque sorte, notre église aujourd'hui doit à l'association d'exister encore. Année 1960-1970, pour que nous puissions maintenir le culte ici tous les dimanches, écoutez bien, l'association nous envoie un prédicateur deux fois par mois de Nîmes, de Paris, de Mulhouse, de Montbéliard, de Genève, des années durant. Ensuite, à l'arrivée de Marc Ray, 75, elle recrute pour nous une équipe d'évangélisation, 5 ou 6 jeunes, je ne me souviens pas du nombre exact. Et puis ensuite, des années durant encore, elle participera à la rémunération pastorale de Marc Ray. Allez trouver ailleurs un exemple de solidarité inter-église de cette envergure. Et pour notre église, eh bien sûr aussi, devoir de reconnaissance. Nous avons trouvé quelques occasions de l'exprimer, ce devoir de reconnaissance, en particulier en accueillant la convention, 2 fois. Chez nous, pas ici, mais au lycée agricole de Sibens. Et figurez-vous même que la dernière fois, on a fait la cuisine. Il n'y en a qui s'en souviennent. Hein. Bien sûr, pourtant sans personne, nous avions un cuisinier, un frère cuisinier professionnel. Bon, cela dit, vous finirez quand même par me dire, tout ça André, écoute, c'est bien beau, hein. C'est ton expérience, c'est ton temps, tout à fait. De même pour notre Église, c'est son passé, bien entendu. Et l'avenir n'est pas identique au passé, ni même le présent d'ailleurs. Merci d'enlever les photos, elles ne sont pas tout à fait le moment. Merci. Ben oui, si vous regardez les photos, vous ne m'écoutez pas, alors ça c'est embêtant. C'est pas supportable. Hein? Donc, l'avenir n'est pas identique au passé, ni même le présent d'ailleurs. Tenez, pour sourire, regardez par exemple la photo. Voilà. Non, c'est pas celle-ci. Voilà, merci. C'est la photo de la convention de 1933. C'est la plus ancienne que j'ai trouvée. Alors, la qualité n'est pas parfaite, mais observez simplement la tenue des participants et mesurez la différence. Chapeau pour les dames, costume cravate pour les messieurs, et mieux encore, la troisième, et mieux encore, voici Monsieur Nicole, pasteur de l'église de Lyon, église dont nous sommes les continuateurs. Elle s'appelait d'ailleurs déjà La Bonne Nouvelle, à cette époque. Et alors, vous le voyez peut-être pas parfaitement, mais Monsieur Nicole porte une queue de pie. Vous savez, ce vêtement-là, qui descend jusqu'à l'arrière, là, pique les pianistes quand ils s'assoient, ils jettent un petit coup en arrière, là. Voilà. Merci. Allons, toutefois, au-delà du sourire amusé et bien naturel, mais qui quand même ne voit que l'extérieur, la surface, qui s'appuie seulement sur la manière d'être ou sur la manière de faire, variable selon les époques. Allons donc au-delà pour trouver le fond. Le fond, il faut aussi l'analyser. Plus difficile qu'un simple coup d'œil sur une photo, mais bien nécessaire aussi. Alors ils disaient quoi, ces frères que vous avez vus sur la photo de 1933, du siècle dernier donc, avec leur visage solennel, parce que si vous aviez pu voir de plus près aussi, vous les auriez trouvés bien raides. Eh bien, ils disaient ce que nous disons aujourd'hui, tout décontractés que nous sommes. Ils disaient le bonheur d'avoir été accueilli chacun dans la famille de Dieu. Ils exprimaient le bonheur, les souffrances aussi, de le servir dans notre famille spirituelle locale, l'Église. Ils disaient, non pas que nous sommes les meilleurs, ni les plus forts, mais bien au contraire, que nous avons besoin les uns des autres. Et c'est pour ça que nous sommes associés dans l'Église, d'abord, dans l'association, ensuite. On pense toujours qu'en toutes circonstances, on va pouvoir se débrouiller tout seul. Mais c'est faux. Vous en connaissez beaucoup de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne solidement, durablement, seuls dans leur coin, sans l'Église. On croit cela aussi dans l'Église, qu'on va pouvoir seul faire face à toutes les situations. Et on se casse la figure. Alors il est vrai que cette continuité de notre passé à notre présent, qui s'appuie bien sûr sur une compréhension partagée des Écritures et de la vie chrétienne, pourrait quand même être ébranlée. Par quoi ? Par le changement des hommes, des responsables en particulier. Le conseil d'administration de l'association compte une douzaine de membres, deux seulement aujourd'hui, sont de mon temps. Ce changement s'est opéré assez vite, seulement par l'âge, bien entendu, de beaucoup, en quelques années. Mais voilà ce qu'ils m'ont dit. Écoute, on a l'impression, avec ces jeunes, de travailler depuis toujours avec eux, tellement l'unité de pensée et de volonté est la même. Et quant à la convention récente, j'ai entendu prêcher de jeunes pasteurs Tout jeune pasteur, Bermuda et liquette, évidemment. Mais je me suis dit que la qualité n'avait pas changé. Même attachement qu'autrefois à sonder les Écritures et même consécration personnelle à les vivre. Conclusion. Et si on remontait encore plus loin que la jeunesse d'André, jusqu'aux premières églises, à leurs besoins et aux réponses que va donner à ces besoins le grand ordonnateur que fut l'apôtre Paul. Ce faisant, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver les mêmes besoins, donc les mêmes réponses à ces besoins, même si parfois, bien sûr, varie la manière de les mettre en œuvre. Juste un exemple, le besoin de pasteur. Le besoin donc de former des gens susceptibles de le devenir. Et en ce moment, dans notre association, il y a 12 églises qui ont besoin d'un pasteur. Alors, pour la formation, les instituts bibliques, au-delà des associations d'églises qui ne peuvent pas le faire, répondent à ce besoin. Eh bien, notre association participe à ce financement, 50 000 euros l'année dernière. Eh bien, c'était le besoin évident des premières églises, bien sûr. Paul y répond par son enseignement, en particulier à Corinthe. Tous les jours, nous disent les textes, deux années durant, dans l'école d'un certain Tyrannus. Bon, une espèce en germe d'institut biblique. Et puis on pourrait passer en revue l'implantation de nouvelles églises, toujours nécessaires aujourd'hui. Bien sûr, plusieurs sont en cours dans notre association d'églises. Et puis, citons encore la réflexion collective sur des sujets difficiles. Exemple, le ministère féminin, aujourd'hui, qui nous rappelle la conférence de Jérusalem. C'est un peu de même style. Etc., etc. Tous des besoins de tous les temps, et auquel on peut en partie, parce que nous ne sommes pas les seuls, c'est très bien ainsi, répondre, toutes églises réunies dans notre famille, l'association. Reconnaissons, ici pour terminer tout à fait en conclusion, l'envergure de l'apôtre Paul. Quand j'ai réfléchi à ça, j'ai écrit sur mon papier « Pauvre Paul ». Parce que c'était tellement nécessaire, tout ça, ce qu'il a lancé. Il a quasiment, à lui tout seul ou presque, il a été missionnaire, il a été implanteur d'église, il a été visiteur d'église, il a été pasteur je ne sais combien d'églises. À lui seul, institut biblique et association d'église. Il a tout fait. Jusqu'au transport de fonds. Il y avait de quoi vivre à Antioche, mais à Jérusalem, c'était la pénurie alimentaire. Les chrétiens d'Antioche organisent une vaste collecte. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils désignent Paul et Barnabas pour aller l'acheminer jusqu'à Jérusalem. Vous savez combien il y a de kilomètres entre ces deux villes? 530.